Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 23 octobre 2020 et vous écoutez le Café de l'e-commerce. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Coucou à tous, ici Adrien, accompagné de l'improbable Laetitia. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, épisode 56, saison 2, nous vous parlerons du FinTech Forum qui a eu lieu à Station F, de Carrefour, d'IKEA, et puis nous aurons l'intervention de Chloé Gonçalves qui nous parlera de Temu Global, l'acteur e-commerce incontournable en Chine. Adrien,
Laetitia, prêt.
Synchronisation des montres.
Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine mais qu'il ne faut pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky.
Zara ouvre sa plus grande boutique d'Asie à Pékin, 3500 m2 dont un espace dédié aux commandes passées en ligne.
Alibaba reprend les activités d'Auchan Retail en Chine. Le distributeur français a annoncé la cession de sa filiale chinoise Sun Art au géant du e-commerce pour 3 milliards d'euros.
Stripe rachète la start-up africaine Pestac pour 200 millions de dollars.
Zalando s'empare de la start-up Fision et de son dispositif de cabine virtuelle.
Porté par le confinement, Asos réalise un chiffre d'affaires annuel de 3,6 milliards d'euros.
Face à Amazon, Microsoft s'allie à SpaceX pour muscler son offre cloud.
Shop in Shop, Decathlon s'installe dans un hypermarché Auchan.
Castorama propose un moteur de recherche visuelle sur son site e-commerce.
Et enfin, triste nouvelle pour moi, Gap envisage de quitter l'Europe et de manière définitive.
Et on passe tout de suite à la rubrique le quoi de neuf chez nous. Laetitia, quoi de neuf chez toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'e-commerce pour toi?
Alors, moi je voudrais vous parler de DeFail Marketing Automation. En fait, j'ai reçu coup sur coup, à quelques jours d'affilée, deux mails qui ont été envoyés par erreur. En fait, ce sont deux enseignes. La première, il s'agit de Mauboussin. Et en réalité, pour être vraiment clair, c'est pas moi qui l'ai reçu, mais c'est mon copain. Qui achète souvent chez Mauboussin, et il reçoit une superbe invitation qui lui dit « Cher monsieur XX, vous êtes invité sur la péniche, je sais plus où, en plus on vous offre une nuit d'hôtel dans un superbe hôtel, et puis vous aurez l'occasion de dîner, notamment en présence du président de Mauboussin. » Donc mon copain me dit « Regarde, c'est génial !» Et là je lui dis « En fait, je pense que c'est une grossière erreur, parce que en fait mon copain a un patronyme assez commun. » Et je lui dis « Je pense qu'ils sont trompés, tout simplement. Je vois pas pourquoi toi, tu gagnerais une nuit, un dîner, tout ça sur une super belle péniche parisienne, en plus avec les restrictions qu'on connaît. » Alors, je précise que c'était avant le couvre-feu. Tout ça pour dire que peut-être deux jours après, il reçoit un email en lui disant « Erratum, ceci était une erreur. » Et c'est tout. Et donc là, je lui dis « On va aller regarder sur les réseaux sociaux. » Et je regarde sur Twitter et je vois que bien, nous n'étions pas les seuls à avoir été victimes de cette erreur humaine, en fait. Mais sauf que sur la twittosphère notamment, ça s'emballait. Ça parlait d'ascenseur émotionnel puisque tout le monde s'attendait à avoir des petits cadeaux et à assister à un super dîner et à une superbe nuit dans un superbe hôtel. Tout ça pour dire que oui, l'erreur est humaine lorsqu'on fait du marketing automation, qu'on envoie plein de newsletters. Mais la moindre des choses, c'est s'excuser et de faire de belles excuses. Là, en revanche, c'était pas du tout des belles excuses. Le deuxième fail, c'est pour la marque Isée. Isée, c'est une marque de lingerie féminine. Et je reçois un jour, comme ça, en plein après-midi, un mail qui me dit « Merci pour votre commande. Et suite à votre commande, nous aimerions avoir votre avis. » Alors que je n'avais absolument pas fait cette commande. Du coup, je cherche un peu partout. Je me dis peut-être que j'ai été hackée, peut-être que mon compte a nanana. Il se passe rien du tout. Et dans l'heure qui suivait, là, je reçois un joli mail avec de belles excuses. Et en me disant « Bah voilà, l'erreur est humaine. On est vraiment désolés. Vous n'avez bien sûr pas passé commande. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas été débité. » C'était sur un ton hyper rassurant, beaucoup plus, on va dire, apaisant que celui de Mauboussin. Donc, ce que je voulais dire, c'était que bien évidemment, l'erreur est humaine, mais il y a aussi des manières de l'expliquer et de présenter ses excuses. Voilà, c'est tout pour moi. Et toi, Adrien, quelle est ta news de la semaine?
Écoute, le 15 octobre dernier, il y avait le FinTech Revolution événement, l'événement Air Revolution, je ne sais pas trop comment on prononce, à Station F. C'est toi qui m'en avais parlé. On voulait essayer de s'y rendre, on n'a pas pu. Et on a demandé à notre amie Solène du podcast FinScale de nous faire un petit retour d'expérience. Elle a été là-bas, elle a interviewé pas mal de personnes et nous a fait une petite note audio pour récapituler un petit peu ce que c'est que l'événement et ce qu'elle en a ressorti. Donc, je te propose d'écouter
génial.
Ça.
Génial.
Bonjour à tous, bonjour Adrien, bonjour Laetitia. Donc Solène Niederkorn, je suis la host du podcast FinScale, qui apporte un éclairage particulier sur les innovations dans le domaine de la finance, de la banque et de l'assurance. Je suis très heureuse de vous livrer ce petit retour d'expérience de l'événement France FinTech qui s'est tenu la semaine dernière à Paris, à Station F. C'était très, très intéressant. Il y avait pas mal de start-up et scale-up qui étaient présentes. Alors moi, j'ai animé toute la journée le plateau télé Rex qui était organisé, où j'ai pu mener à peu près une quarantaine d'interviews de fintech players. Donc, c'est très, très varié. Il faut savoir que l'environnement fintech en France et notamment au sein de France FinTech, qui est l'association qui regroupe, la plus grande association qui regroupe la fintech, les fintech en France. Dans ces fintech, on va retrouver beaucoup d'acteurs différents qui servent différents marchés. Donc on va retrouver des acteurs qui servent tout ce qui concerne PME, TPE, des acteurs qui servent les établissements financiers, d'autres types d'acteurs qui vont servir des fintech elles-mêmes. Donc, c'est toute une panoplie de sociétés plus ou moins grandes. On va retrouver des sociétés au sein du service, qui vont apporter des solutions dans les services de paiement, toutes les activités de banking, d'assurance, bien entendu ce qu'on appelle la RegTech, c'est-à-dire des fintech qui résolvent des problèmes liés au réglementaire. Et puis, bien entendu, tout ce qui concerne le financement, les placements, solutions patrimoniales ou encore les services opérationnels. Donc, tous ces acteurs-là se réunissent chaque année depuis 5 ans maintenant à Station F pour se rencontrer entre eux, puisqu'il y a quand même pas mal de collaborations entre fintech players et bien entendu pour rencontrer des investisseurs. Donc, il y a pas mal de business angels, de VC qui montrent leur bout de leur nez et bien entendu beaucoup d'établissements financiers, donc des banques ou des compagnies d'assurance qui sont présents, soit comme investisseurs, ce qu'on appelle le corporate VC, soit pour nouer des partenariats. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de partenariats qui se mettent en place entre des établissements financiers et des startups. Alors les établissements financiers qu'on connaît le plus, qui se positionnent beaucoup dans ces collaborations-là, c'est bien entendu les grandes banques, comme Société Générale, Crédit Agricole, BNP, et des plus petits acteurs également régionaux. Et donc, on va avoir également la présence importante dans tout cet écosystème-là d'incubateurs régionaux, comme les villages du Crédit Agricole, par exemple, ou des plus petits incubateurs qui nouent également des relations avec les établissements financiers de manière régionale. Il y avait également la présence de players internationaux. Il faut savoir qu'au sein de l'environnement fintech français, il y a des players européens. Je pense notamment à Bitpanda, qui est un néo-broker qui vient d'annoncer d'ailleurs une levée en série A de plus de 50 millions de dollars. Donc voilà, Bitpanda est venu s'établir en France. Ils viennent d'ouvrir une entité en France, donc pour servir les clients français et répondre à une appétence du marché pour ce type d'actifs financiers. Voilà, on peut parler des heures de ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est franchement très intéressant de suivre l'évolution de cet écosystème quotidiennement, en ce qui me concerne. Et je vous invite vraiment à vous abonner à la newsletter de France FinTech, on retrouve toutes les newsletters passées sur le site de France FinTech. Vous allez avoir énormément d'informations sur le paysage FinTech. Donc FinTech, encore une fois, qui regroupe tout ce qui est Risk Tech, Fund Tech, Reg Tech. Donc c'est vraiment au sens large qu'il faut l'entendre. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre écoute et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur la FinTech. À bientôt.
Merci beaucoup Solène, c'était complet et on espère que l'année prochaine, nous pourrons y assister. Et on passe tout de suite à la rubrique « Quoi de neuf chez vous ?». « Quoi de neuf chez vous ?», c'est la rubrique où on lit vos messages, où on répond à vos questions. Et puis, c'est la rubrique où vous avez la parole.
Alors Laetitia, cette semaine, on a eu encore un commentaire. Donc là, on est sur iTunes. Encore une fois, on a 55 notes et pas mal de commentaires. Le dernier commentaire date du 14 octobre dernier. Donc, il y a quelques jours de Cynthia at It Is Commerce. Coucou Cynthia.
Salut Cynthia.
Le titre, c'est « De la bonne humeur sans langue de bois ». Et le texte, c'est « Chaque semaine, les actus sont pertinentes et intéressantes. Le ton est drôle et sans prise de tête. Exactement ce qui manquait dans le monde de l'e-commerce. Merci Adrien et Laetitia pour ce podcast au top du top. Je recommande à 100%. » On aurait dit que c'est nous qui l'avions écrit ce commentaire. Donc, merci beaucoup, Cynthia. T'es un amour. Et puis, merci encore à tous ceux qui prennent le temps de nous envoyer des petits messages, des petits mots ou des commentaires sur les réseaux. Et en parlant de ça, justement, on a reçu également, Laetitia, un message, une question d'une auditrice via notre groupe WhatsApp. Donc, je te propose de l'écouter et on y répond tout de suite.
Bonjour, c'est Myriam. Alors, j'avais vu que les ventes de rouge à lèvres ont chuté depuis le port du masque. Est-ce que c'est une info ou une intox? Et est-ce que vous auriez des chiffres? Merci.
Bonjour Myriam, merci pour cette question que je trouve assez intéressante. Alors effectivement Myriam, la vente de rouge à lèvres a drastiquement baissé depuis l'instauration du port du masque obligatoire. En fait, ça avait déjà chuté avant, depuis le confinement. Les ventes de produits de beauté ont chuté de 17% sur les 8 premiers mois de l'année 2020 en France. Donc ça s'explique par le fait que, et là j'ai pas envie de dire les femmes, c'est aussi des hommes qui se maquillent et qui utilisent des produits de beauté, n'en portaient plus nécessairement puisque nous étions tous confinés. Et le produit de beauté qui a été le plus délaissé par les femmes, c'est vraiment le rouge à lèvres, avec une baisse des ventes de 26% depuis le déconfinement. Donc ça s'explique par le fait que ceux et celles qui portent le masque, c'est assez désagréable. Quand tu portes du rouge à lèvres plus un masque, c'est la double peine parce que t'en mets partout. Et puis après, ton masque, déjà, t'es déjà régulièrement obligé de le laver. Mais alors là, si en plus il est tout sale avec du rouge à lèvres, les acheteurs et les acheteuses de rouge à lèvres délaissent vraiment ce produit. Sur les ventes qui sont aussi en chute, on voit le maquillage pour les yeux qui a quand même diminué un petit peu. On voit aussi tout ce qui a trait au démaquillage. Donc, comme on se maquille moins, on se démaquille moins. Voilà. Donc, le confinement et le coronavirus aura eu des effets aussi sur la vente de produits de beauté.
Et pour les produits de beauté, donc effectivement, il y a une grosse chute. Par contre, pour les produits de soins, là, il y a une très forte augmentation. En tout cas, les clients avec lesquels je bosse ont eu des chiffres hallucinants. Donc oui, on perd d'un côté
pour certains acteurs. Skincare, tout ça, ouais.
Exactement. Merci encore, Myriam, pour la question. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez.
Adrien, je voulais rajouter, merci encore à toutes et à tous. Vous êtes désormais plus de 520 à nous suivre sur la page LinkedIn, où vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires.
Merci. Les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Laetitia, tu veux nous parler de Carrefour?
Oui, alors j'ai vu cette news, je crois que tu l'en avais déjà parlé vers le mois de juin. En fait, parce que déjà depuis le mois de juin, Carrefour a opté pour une notation de ses produits via la solution Init. Et donc depuis le lundi 19 octobre 2020, Carrefour a décidé de vous proposer, vous, consommateurs, de remplir un formulaire pour mieux personnaliser le score des produits qui sont présents sur le site marchand. Donc c'est uniquement disponible sur le site marchand, vous répondez à un questionnaire. Si vous mangez du gluten, pas de gluten, si vous aimez des choses sucrées, pas sucrées. Et puis à la fin, le distributeur vous propose une analyse de vos données. Ce qu'explique Carrefour, c'est que cette solution, elle s'inscrit pleinement dans la démarche Act for Good. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est la démarche Act for Good, Adrien, c'est un peu comme le Nutri-Score. En fait, c'est l'idée de vendre des produits qui sont bons et avec une totale transparence sur leur composition. Donc en fait, ce que Carrefour vous propose, c'est un score nutritionnel personnalisé. Et avec ce scoring, on va dire, on va pouvoir établir des profils alimentaires qui vont vous être proposés. Donc, on va pouvoir vous pousser des produits. Si vous êtes végétarien, on va éviter de vous proposer de la viande. Si vous êtes gluten-free, on ne vous proposera plus jamais du gluten. Si vous ne mangez pas de porc, on ne vous proposera plus jamais du porc. Bref, c'est vraiment de la personnalisation plus, plus, plus. Petit point RGPD, les données sont anonymisées et elles sont en adéquation avec le RGPD, bien évidemment. Voilà, donc c'est un pas supérieur, un pas de plus pour Carrefour dans la personnalisation. Et donc, je leur précise, c'est uniquement disponible sur le catalogue en ligne.
Super, bonne initiative de Carrefour. S'ils donnent en plus la transparence de comment ils calculent tout ça, ça peut que donner des outils en plus pour les consommateurs. Et tu voulais nous parler également d'IKEA.
Ouais, je voulais vous parler d'IKEA qui a décidé d'investir 250 millions d'euros pour améliorer ses services en ligne. Rien, t'as déjà commandé sur IKEA?
Ouais.
Et comment s'est passée ton expérience en ligne?
Je m'attendais pas à grand chose parce que j'aime pas trop IKEA, le magasin. Okay. Donc le site internet au final c'était un petit peu lourd, mais ça a fonctionné.
Ouais, voilà, ça remplit ses fonctions basiques, on va dire. T'as un catalogue très très lourd et c'est un peu relou, l'expérience elle est très basique, moi je trouve. Et alors surtout quand tu décides de te faire livrer à la maison ou des choses comme ça, tout devient hyper compliqué. IKEA enregistre une forte croissance de ses ventes en ligne, mais elle a quand même subi une petite chute de 7% de son chiffre d'affaires sur 2019-2020. On en connaît les raisons, le confinement, la fermeture pendant 10 semaines d'un certain nombre de boutiques, enfin de toutes les boutiques d'ailleurs. Mais IKEA s'est dit, bon ok, on va limiter la casse et on va investir sur le numérique, là où on a pas mal de soucis. Ce qui fait que ils vont investir sur du click and collect, ils vont investir sur une expérience client beaucoup plus personnalisée et puis aussi sur du figital. Adrien, tu nous rappelles ce que c'est que le figital? Je déteste ce mot, donc du coup, j'aime pas l'expliquer.
C'est tout simplement amener le digital dans le magasin physique. Donc voilà. Ça peut avoir c'est des bornes par exemple ou tout autre dispositif qui va te permettre d'avoir plus de digital et connecter son magasin.
Exactement. Et aujourd'hui, ça n'existe pas chez IKEA. Il n'y a rien du tout qui est connecté. Ce qui est sympa, c'est de suivre le parcours avec les flèches et puis de se trouver dans des ambiances un peu différentes. Mais sinon, niveau digitalisation, on ne le retrouve pas trop. Donc voilà, on attend de voir, parce que 250 millions, c'est quand même assez énorme, et c'est uniquement sur la France, et c'est sur ces deux prochaines années. Moi, j'attends de voir ce qui va être proposé, et j'espère que ce sera au niveau de l'investissement.
Donc c'est de la com, ils vont investir, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire, c'est ça?
Ouais, c'est ça, voilà, à part nous mettre du digital, mais si c'est pour nous mettre des tablettes, c'est un peu pourri, quoi. J'espère qu'ils vont, par exemple, innover au niveau des caisses, tu vois. Même si aujourd'hui, les caisses sans caissière et caissier existent, c'est toujours hyper pénible, je trouve, de faire ses courses chez IKEA, parce que tout est grand, tout est lourd, il y a toujours trop de monde. Je sais pas, dans un épisode, j'avais expliqué que je ne sais plus, je crois que c'est Carrefour qui proposait des créneaux horaires pour pouvoir réserver son espace d'attente dans les queues. Il pourrait faire ça par exemple chez IKEA, parce qu'on sait que c'est toujours bondé. Je ne travaille pas au service digitalisation des magasins chez IKEA.
Je suis sûr qu'ils vont prendre de super bonnes idées. On va regarder ça et on vous tiendra au courant. Et tout de suite, la rubrique No Filter, c'est la rubrique sans filtre de l'actualité des réseaux sociaux où les likes et l'argent sont monnaie courante. Laetitia, tu veux nous parler d'Instagram?
Ouais, Instagram et Snapchat. Donc Instagram a décidé enfin de s'attaquer aux publicités cachées des influenceurs. Je ne sais pas si tu vois de rien, mais sur Instagram, tu as beaucoup, beaucoup de posts et d'influenceurs qui te présentent des produits et qui omettent volontairement ou moins volontairement, voilà, j'ai la bonne phrase, de préciser si c'est sponsorisé. La plupart du temps, je sais pas, j'ai envie de me mouiller et de vous dire que dans 90% des posts, ils sont sponsorisés, mais qu'il n'y a pas la mention. Donc en fait, il y a une enquête qui a été ouverte par le CMA, c'est le Competition Market Authority au Royaume-Uni. Et cette enquête visait donc le groupe Facebook et plus particulièrement Instagram pour la mise en place de nouvelles mesures pour mieux cadrer le marché du marketing d'influence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je ne connais pas un seul pays, en tout cas européen, où le marché du marketing d'influence est cadré et régi. C'est vraiment le chaos et chacun fait ce qu'il veut. Du coup, certains influenceurs n'indiquent pas clairement lorsqu'ils sont rémunérés pour une marque et pour un placement de produit tout simplement. Et aujourd'hui, on aimerait bien, en tout cas la CMA britannique, et il y a un équivalent en France, je l'ai trouvé, mais je ne sais plus trop ce que c'est, je ne l'ai plus noté, décide de forcer et de faire en sorte que Instagram, en tout cas le groupe Facebook, s'engage à mettre en place des nouvelles mesures d'ici juin 2021. Le problème, c'est qu'aujourd'hui déjà, on a très peu d'influenceurs qui mettent la mention sponsorisée. Donc je pense que sponsorisé et surtout partenariat avec telle marque, c'est déjà pas mis en place. Je vois pas comment est-ce qu'on peut, comment on peut les forcer. À part peut-être créer un algorithme qui pourrait détecter les posts, j'ai pas envie de dire frauduleux, mais en tout cas ceux qui ne respectent pas les règles en vigueur.
Et ici, après Instagram, tu voulais nous parler de Snapchat?
Oui, je voulais vous parler de Snapchat. Alors déjà, Snapchat vient d'annoncer des chiffres records. Je les ai plus en tête, ils les ont lancés là en début
plus
de semaine.
Plus 50% de revenus sur le trimestre.
C'est un truc de fou parce qu'on pensait tous que Snapchat était mort avec l'arrivée de TikTok. Et en réalité, mais pas du tout. Snapchat, il faut le savoir, ça reste un des réseaux sociaux préférés des teenagers aux États-Unis, bien avant TikTok. Bon, après Instagram, mais voilà. Et donc, Snapchat Snapchat vient d'annoncer le lancement de Sounds. Alors, j'ai regardé aussi sur mon Snapchat. C'est une fonctionnalité qui ressemble beaucoup à celle de Reels ou à celle de TikTok, qui permet d'ajouter de la musique à ses snaps. Donc, rien de nouveau sous le soleil, mis à part que maintenant, bah, les marques, elles vont pouvoir proposer aussi des Snapchat Sounds et puis aussi pouvoir créer leur propre musique, parce que c'est en fait c'est ce que vous pouviez faire déjà sur TikTok, c'est pouvoir créer vos propres morceaux et puis du coup créer vos propres challenges et vraiment personnaliser au maximum vos interventions sur Snapchat Sound. Donc je pense que c'est pas mal. Snapchat, c'est toujours le vilain petit canard boiteux dans la troupe des réseaux sociaux, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il lâche jamais l'affaire. Donc moi j'ai pas essayé, mais j'ai regardé la fonctionnalité, c'est hyper simple, et en plus bah, ils ont un avantage, c'est que y a pas de comment est-ce qu'on dit ça, il va y avoir un temps d'attente pour pouvoir s'adapter à cette fonctionnalité, puisque de toute façon on l'utilise déjà sur Instagram ou sur TikTok.
Ouais, l'adoption va aller beaucoup plus vite.
Exactement.
Comme il y a peu de marques qui ont investi Snapchat, les taux de conversion les taux de clics sont plus importants que sur les autres réseaux. Certains disaient que ça allait jusqu'à 4 fois plus performant. Mm-hmm. Ça va. Et en plus, il y a beaucoup de polémiques sur TikTok, sur Instagram.
Exactement.
Avec les données privées, etc. Donc là, Snap va avoir le vent en poupe ces prochains mois. Et je crois que j'avais vu que c'est 15 millions d'utilisateurs par mois en France, ce qui est vraiment très, très important. Ouais, on n'en parlait pas beaucoup, mais une fois que les marques vont commencer à communiquer, que Snap va commencer à avoir plus de visibilité, on en parlera de plus en plus. Ils sont le quatrième, comme tu as dit, en réseau social, donc ça reste quand même des chiffres très très importants et ils sont complètement invisibles, ou en tout cas on n'en parle pas du tout à la hauteur de ce que ça devrait être. Donc on leur souhaite bon courage et c'est certain qu'on va en entendre parler encore plus dans les prochaines semaines.
Vive Snapchat! Et on passe le mic. Passe le mic, c'est le moment où on partage le mic avec un invité. Et aujourd'hui, nous passons le mic à Chloé Gonzalez de Tmall Global. Et nous accueillons tout de suite Chloé Gonzalez, qui est Senior Business Development Manager à Tmall Global. Bonjour Chloé.
Bonjour Chloé.
Bienvenue dans l'émission, Chloé. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement?
Bien sûr. Donc moi, c'est Chloé. Comme tu l'as dit, je suis Business Development Manager chez Tmall Global, qui est en fait la plateforme de e-commerce du groupe Alibaba. Et mon rôle, en fait, aujourd'hui, c'est d'aider les marques françaises à s'implanter sur le marché et à ouvrir des boutiques, donc sur Tmall, la plus grosse plateforme de e-commerce en Chine.
Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter Tmall et puis Taobao, et surtout bien nous expliquer ce qu'est une super app, parce qu'on entend tout le temps parler de super app?
Et surtout, on entend ces mots tout le temps, mais je crois que personne ne sait vraiment ce que c'est que Tmall, donc ça va être super intéressant d'avoir ta définition et ton explication.
Tout à fait. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que la mission d'Alibaba, depuis le début, c'est « to make it easy to do business anywhere ». Et donc pour ça, l'entreprise, elle a bâti ce qu'on appelle un écosystème de solutions pour que les entreprises petites, moyennes et grosses puissent se connecter et faire du business ensemble. Et donc dans cet écosystème, on a du e-commerce, on a de la logistique, on a du divertissement, du marketing, du cloud, etc. Et dans la partie donc e-commerce, vous connaissez peut-être AliExpress pour le marché français, Alibaba.com qui fait du B2B. Et en Chine, en fait, les deux plus grosses plateformes de e-commerce, c'est Tmall et Taobao. Et à elles deux, elles représentent 60% en fait de tout l'e-commerce chinois. Ces deux plateformes, elles ont aujourd'hui plus de 710 millions d'utilisateurs actifs. Et alors Taobao, c'est une application qui est de C2C, c'est-à-dire des petits vendeurs avec des petites marques qui vont ouvrir des boutiques en ligne et vendre leurs produits. Alors que Tmall, c'est du B2C, c'est-à-dire ça va être pour les marques qui vont ouvrir des flagship stores avec une boutique 100% personnalisable à l'image de la marque et qui vont pouvoir vendre leurs produits en ligne. Et alors pourquoi c'est une super app? Parce qu'en fait, quand on ouvre Taobao ou Tmall, vraiment tout est intégré. Vous pouvez faire vos courses sur Tmall Supermarché, vous pouvez aller sur Fliggy et acheter vos billets d'avion, vous pouvez vous commander à manger et vous pouvez aussi vous divertir en fait. En Chine, le e-commerce et le divertissement sont vraiment reliés. Donc sur Taobao, vous avez accès à du live streaming, vous avez accès à des articles de blog, à des vidéos, etc. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une super app, parce que vous pouvez faire vraiment énormément de choses avec juste une application.
J'ai deux petites questions pour toi, Chloé. La première, c'est quand tu parlais de B2C, de marques qui vendent. En France, on imaginerait mal des marques vendre comme ça. Enfin, en tout cas, ça va peut-être se populariser, mais on retrouve un certain type de marques, des petites marques qui veulent se lancer, ou on trouve également ce qu'on dirait des marques du CAC 40 ou des très grosses enseignes également vendent comme ça.
Exactement, c'est ça l'intérêt de Tmall. Et à l'intérieur de Tmall, on a même deux plateformes. On a Tmall Classique et Tmall Global. Moi, je travaille pour Tmall Global, qui est justement une plateforme de cross-border qui permet aux marques, petites marques PME qui n'ont pas encore de compte bancaire en Chine, qui n'ont pas fait l'enregistrement de leurs produits, de pouvoir vendre sur le marché de manière très facile. Donc, tout à fait, on a vraiment des plateformes qui sont ouvertes à tout type de marques.
Et quand tu parlais tout à l'heure de super app, on n'a pas vraiment, en France particulièrement, d'exemple de ce que ça pourrait être. En fait, il faudrait agréger plusieurs apps ensemble et ça serait la définition d'une super app, c'est ça?
On n'a pas d'équivalent aujourd'hui en France, Chloé.
Il n'y a pas vraiment d'équivalent. En fait, ça pourrait être un Amazon, plus un YouTube, plus un Instagram, plus un Groupon, plus un Booking, un Thrifty, tout réuni. En fait, c'est ça la différence qu'on a en Chine, c'est que voilà, avec une application, vous pouvez tout faire. Et d'ailleurs, Taobao, en moyenne, les consommateurs ouvrent l'application 7 fois par jour pour une durée de 20 minutes en moyenne. Parce qu'en fait, ils adorent y passer du temps, même s'ils n'achètent pas, en fait, ils passent du temps pour regarder des live streaming, des articles de blog, des vidéos, etc. C'est un vrai moteur de recherche en fait pour eux, et donc c'est pour ça qu'ils y passent énormément de temps. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant comparé en France, où nous on va utiliser les sites de e-commerce pour gagner du temps, alors qu'en Chine c'est vraiment pour passer
du temps.
Et justement, est-ce que ça conditionne peut-être le profil type d'un consommateur en Chine? Ça ressemble à quoi et comparé par exemple à un consommateur français?
Oui, tout à fait. Ben, en fait, la Chine, elle s'est développée très rapidement et digitalisée aussi très rapidement. C'est-à-dire que la plupart des Chinois, n'ont jamais vraiment interagi avec un ordinateur. Ils ont tout été directement via le mobile. Donc, ils payent avec le mobile, ils font du shopping avec le mobile. Moi, qui ai vécu 3 ans en Chine, je n'ai jamais retiré d'espèces parce qu'on peut vraiment payer partout avec le mobile. Et donc, du coup, le e-commerce via mobile, c'est vraiment super démocratisé. Et c'est vraiment pour eux un divertissement. Et aujourd'hui, les consommateurs chinois, ils sont donc très digital et ils sont aussi très curieux. C'est-à-dire qu'ils voyagent beaucoup, ils suivent beaucoup des influenceurs, des blogueurs. Ils aiment vraiment voir ce qui est un peu tendance à l'étranger. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un gros potentiel pour les marques françaises et européennes de vendre sur le marché. C'est que les consommateurs chinois, ils raffolent des marques intéressantes, des marques un peu niches. Donc les consommateurs chinois sont aussi très jeunes, en tout cas pour la partie e-commerce. Nous, sur Tmall, 89% de nos utilisateurs, ils ont entre 18 et 39 ans et 60% ont moins de 30 ans. Donc, ils sont jeunes, sophistiqués, ils adorent les tendances et puis ils sont très friands du coup de produits importés.
Avec un pouvoir d'achat assez fort.
Ouais, tout à fait. Les consommateurs chinois, ils sont, ils adorent les marques européennes, les marques de luxe, etc. Donc, si le budget n'est pas un prérequis, du moment que la marque leur plaît, qu'ils peuvent avoir des produits assez niches, de bonne qualité et uniques, ils sont prêts à mettre le prix. Tout à fait.
Est-ce que là, alors on connaît encore les conditions de la Chine, les Chinois ne peuvent pas voyager en Europe et on sait qu'ils sont, tu viens de le dire, friands de marques de luxe. Du coup, j'imagine que des super apps comme, alors désolé, je n'ai pas le même accent que toi, je n'ai pas vécu en Chine, mais comme Taobao, je pense que ça cartonne là. Très clairement, le type de clientèle que tu viens de citer, là, ils sont en plein, ils dépensent énormément en ce moment.
Ouais, tout à fait, comme ils ne peuvent pas vraiment voyager et du coup ils rebasculent ce budget voyage dans le budget shopping, donc tout à fait, le e-commerce en Chine a bien redécollé même pendant le Covid en fait. On a parlé brièvement du live streaming, mais c'est vraiment une grosse tendance sur le marché chinois.
Alors explique-nous un petit peu ce que c'est que le live streaming, parce que j'en ai déjà parlé dans certains épisodes. Pour moi, ça s'apparente beaucoup à ce qu'on avait à l'époque du télé-shopping à la télé, et d'ailleurs j'ai regardé un peu sur du AliExpress des live streaming, on retrouve exactement les mêmes codes, mais je suis hyper étonnée parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent et qui regardent. Donc réexplique-nous ce que c'est.
Ouais, en fait, la Chine, c'est vraiment le plus gros marché du live streaming au monde. Hein. Ça équivaut à 4 milliards de dollars. Et en fait, le live streaming est carrément intégré à l'intérieur de Taobao. Donc, ça s'appelle Taobao Live. Aujourd'hui, 50% des marques sur Tmall et Taobao l'utilisent parce que le live streaming, ça permet vraiment d'engager, de divertir le consommateur. La marque peut soit faire une présentation elle-même de ses produits en live. Pendant qu'elle discute, le consommateur peut cliquer sur le produit, l'acheter, poser des questions, recevoir des coupons. Donc, c'est vraiment super interactif. Et le live streaming aujourd'hui, un point clé, c'est vraiment les KOL, les Key Opinion Leaders. Donc peut-être que vous connaissez Via ou Li Jiaqi, qui sont vraiment des super blogueurs chinois qui peuvent vendre des milliers de produits en quelques minutes via du live streaming. Donc c'est vraiment quelque chose qui était déjà une tendance avant le Covid, mais qui s'est encore plus accéléré après et pendant, puisque du coup les marques voilà, ne pouvaient pas vendre en offline dans leur boutique, et donc elles ont utilisé le live streaming pour garder cette connexion avec le consommateur. Et ça a d'ailleurs été décliné à plein de domaines différents. Les musées, par exemple, il y a beaucoup de musées chinois qui ont fait du live streaming pendant le Covid pour que voilà, les consommateurs puissent voir un aperçu des différents musées. Il y a le château de Versailles qui l'a fait également en France, le musée du Louvre qui a fait un live également hier. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'avoir une connexion un peu différente avec le consommateur et de l'engager sur des différents sujets.
Depuis quelques années, on entend que la Chine, c'est le nouvel Eldorado, donc on peut enlever le mot nouveau, je crois. Est-ce que c'est toujours l'Eldorado et est-ce qu'il y a toujours un intérêt pour les marques à aller vendre en Chine, de n'importe quelle taille qu'elle soit? Et dernière composante à la question, comment est-ce qu'elles doivent s'y prendre? Est-ce qu'il faut aller là-bas, avoir un bureau? C'est long, ça met un an pour dans les papiers, etc.
Bien sûr, tout à fait, c'est vraiment une opportunité pour les marques. En fait, pour vendre sur le marché chinois, il faut ouvrir une boutique, donc ce qu'on appelle un flagship store sur Tmall ou Tmall Global. Tmall Global, je vous le disais, c'est pour les marques qui n'ont pas encore fait l'enregistrement de leurs produits, donc typiquement les marques de cosmétiques ou de maman et enfant qui ne peuvent pas, qui n'ont pas encore fait l'enregistrement des produits ou qui ne peuvent pas faire le test sur les animaux. Tmall Global, c'est vraiment la meilleure plateforme puisque ça leur permet de tester le marché et de vendre leurs produits aux consommateurs. Voilà, c'est 700 millions, c'est pas rien, quoi. C'est énormément de consommateurs, et donc pour pouvoir vendre, il faut qu'elles trouvent ce qu'on appelle un Tmall Partner, qui est un third party en fait, qui va les aider à faire toute la partie opérationnelle, la logistique, le design des pages. Et donc moi, en tant que BD, c'est justement mon rôle de les introduire aux marques. Donc en fonction de si c'est une marque de cosmétiques, de maman et enfant, en fonction de la sous-catégorie du produit, on va leur présenter des Tipeee qui ont de l'expérience dans ces domaines. Et donc ça fait une relation tripartite entre la marque, son Tipeee et Tmall, et on va les accompagner pour ouvrir leur boutique en ligne sur le marché.
Moi, j'ai une dernière question, Chloé. La maturité du marché français à aller sur ce type de plateforme, comment est-ce que tu la qualifierais? C'est compliqué pour toi d'aller chercher des DNVB, par exemple, et de les inciter à aller sur du Tmall Global. Quels sont tes arguments, justement, pour les faire venir?
Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je suis rentrée ici après 3 ans en Chine, c'est qu'on a besoin de faire beaucoup d'éducation sur le marché chinois. C'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'a priori, c'est un très gros marché, et c'est vrai que quand on ne connaît pas comment faire, comment s'y prendre, ça peut être effrayant. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est justement de pouvoir éduquer les marques sur le potentiel, sur comment adapter leur stratégie produit, leur stratégie marketing au marché chinois, comment les aider à trouver un partenaire. Et voilà, c'est vraiment une super opportunité parce que, comme je vous le disais, les consommateurs chinois raffolent des produits étrangers, et aujourd'hui voilà, on a des marques françaises qui étaient très peu connues. Je prends l'exemple de Dilado qui faisait des colliers de bola de grossesse pour atténuer un peu le bébé, etc. Et ben maintenant ils font 40% de leur chiffre d'affaires en Chine, alors que c'était une petite entreprise. Ils sont à peine une dizaine à Paris, donc il y a vraiment cette opportunité parce que les consommateurs raffolent de trouver des produits assez niches. Et donc voilà, une fois qu'on présente cette opportunité-là aux marques françaises, elles sont définitivement intéressées, et nous on est là localement à Paris pour les accompagner et réussir.
Chloé, on arrive à la conclusion de cette intervention ou de cet échange. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, qui veulent te contacter ou qui se disent pourquoi pas vendre en Chine, mais bon, est-ce que c'est pour moi ou pas, qu'est-ce que tu leur conseilles?
J'ai conseillé de venir me parler sur LinkedIn. Moi, on a vraiment un BD manager dédié pour chaque catégorie, donc peu importe le type de produit ou le type de marque, on peut tout à fait vous recommander quelle est la meilleure façon de vendre sur le marché chinois et de vous accompagner. Et voilà, si les personnes sont intéressés d'en savoir plus sur les nouvelles d'Alibaba, on a un site vraiment avec toutes les news en anglais qui s'appelle Alizila. Donc n'hésitez pas aussi à aller regarder sur ce site.
Ok, on va tout mettre les liens dans la description pour les gens qui veulent te contacter ou pour avoir le site internet. Laetitia, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, j'ai une dernière question. Tu as un objectif de recrutement là, de marque française, si on peut t'aider à les booster, dis-nous.
Tout à fait. Bah, en fait, Timo Global, qui est vraiment la plateforme pour aider les marques étrangères à s'implanter sur le marché, ils veulent recruter 1000 nouvelles marques cette année. Donc voilà, si vous êtes une marque française et que vous avez des produits que vous voulez exporter sur le marché chinois, définitivement, voilà, rentrez en contact avec nous. On pourra vous accompagner à réussir sur le marché.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Chloé, c'était très très clair sur un sujet qui est passionnant et qui est toujours très compliqué vu de la France.
Mais merci beaucoup Chloé.
Donc on te souhaite beaucoup de courage et à très bientôt, on se recontacte dans quelques mois et on voit comment ça a évolué.
C'est gentil, merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Au revoir Chloé, à bientôt. Et on passe tout de suite à la rubrique Le Café du Mytho. Le Café du Mytho, c'est la rubrique où on dessert un carton jaune ou un carton rouge sur quelque chose qui nous a fait réagir. En gros, c'est notre coup de gueule. Et aujourd'hui, c'est Adrien qui en a gros sur la patate et qui va nous livrer son Café du Mytho.
Carton rouge pour quelqu'un qu'on connaît bien, Laetitia, bah pour nous, tu vois, à force de décerner des cartons, on va s'en décerner un pour nous, parce qu'il y a quelques jours, je faisais des petites stats, et je regardais un petit peu les invités l'année dernière, la proportion d'invités qu'on avait.
Alors, quelle typologie d'invités on a eu en tout, là? On est pas loin des...
On doit être une quarantaine, quelque chose comme ça. Ouais, et ouais, entre 30 et 40. Après, ça dépend ce que c'est, comment on définit les invités. Et ça me paraissait intuitivement, je me disais, on devait être à 50% d'hommes et 50% de femmes. Et bah, figure-toi que pas du tout. On est à un peu moins de 25% pour les femmes et 75% pour les hommes. Et donc, cette stat, elle m'a assez marqué parce que on a un duo et je me disais qu'intuitivement, enfin, on allait avoir un équilibre. Donc, saison 1 café pour LCDE, des stats sont pas très bonnes. On va faire un effort et on va travailler dessus pour que cette année, on est des profils qui sont variés, pas juste des directeurs, des personnes qui font l'e-commerce, d'autres qui sont en support, qui travaillent dans l'écosystème, et on est toujours à la recherche de personnes qui puissent venir parler, peu importe ce que vous faites. Enfin, il faut que ça soit un rapport de près ou de lien, de près ou de loin avec l'e-commerce, mais on est plus que ravis de pouvoir avoir des personnes autour de nous, et on va essayer de faire un effort pour avoir être un peu plus inclusif et essayer de combattre les biais qu'on peut avoir dans notre secteur parfois si on laisse les choses se faire.
Donc, Adrien,
ça te fait réagir.
Si on a des femmes qui nous écoutent et qui se sentent à l'aise de prendre le micro, en fait, tu leur as dit c'est OK. C'est ça?
Ouais, bah c'est toujours la même chose. Le micro, il est ouvert pour les hommes et pour les femmes. Donc, contactez-nous et on sera ravis de pouvoir vous échanger avec vous et regarder dans quelle mesure vous pourriez échanger avec nous. Merci.
Reco micro, micro reco. Au micro, on fait notre reco. Écoutez-la, illico presto. Adrien, quel est ta reco de la semaine?
C'est un outil très simple. Ça va être très basique pour la plupart d'entre nous, des auditeurs. C'est un outil qui s'appelle BuildWith. On mettra le lien. Et c'est un outil que j'utilise constamment, que j'utilise depuis très très longtemps. Il y en a des alternatives, mais je me suis habitué avec celui-ci. Tu mets une URL, une page ou ce que tu veux, et il va te dire tous les outils qui sont utilisés par ce site-là. Donc des fois, quand tu as envie de savoir quelle est la plateforme e-commerce, quel est l'outil de tag management ou d'analytics qui est utilisé, ou les outils marketing, il va pouvoir te lister tout ça. Et c'est un outil très très pratique, notamment quand on fait des audits de site. En ce moment, j'ai reçu pas mal de demandes autour de moi. Adrien, qu'est-ce que tu penses de ce site? Et donc là, j'ai 3-4 audits de site à faire et c'est notamment un outil que j'utilise constamment pour regarder un peu et avoir la cartographie technique, on va dire, du front, et ça me donne une bonne idée du site. Donc je recommande à tous ceux qui, il n'y a pas besoin d'être développeur, c'est juste qu'ils sont curieux de savoir quels sont les outils qui sont utilisés. Il y a aussi des extensions qui existent. Il y a plein d'outils qui existent, mais celui-ci, BuildWith, il est très simple et très facile à utiliser. Laetitia, ta reco de la semaine?
Oui, moi je voulais vous parler de Chute Média. Chute Média, ça s'écrit comme chute et puis comme média. En fait, c'est un média magazine papier qui parle du numérique. Et en fait, ça nous parle du numérique dans son intégralité, dans ses bienfaits et ses méfaits. Et j'ai découvert ce magazine en ligne, puisqu'il y a aussi une version en ligne, mais elle est très restreinte. En fait, il faut être abonné ou alors passer par un système d'abonnement. Et le magazine se veut, défend une tech éthique, mixte et responsable. Ça, c'est la baseline du magazine. En gros, c'est un magazine de société qui nous interroge sur l'impact du numérique. Et vous le savez, dans mes recos, à chaque fois, je vous parle des réseaux sociaux, de plein de choses qui impactent nos vies. Et franchement, je trouve que c'est plutôt bien foutu parce qu'il donne la parole à plein de gens. Alors bien sûr, des experts, des universitaires, des gens qui utilisent des mots toujours très savants. Et puis aussi, il y a des gens qui sont de la société civile. Et franchement, je vous invite à lire parce que moi, j'ai notamment lu un article sur comment Instagram a démocratisé le féminisme. Tout simplement par la création de plein de comptes sur Instagram qui parlent de féminisme accessible et pas... Adrien, arrête de sourire.
Non, je suis sûr que c'est des sujets qui te passionnent. Tu as dû trouver des choses très intéressantes sur ce site.
Ouais, voilà. Bon, en tout cas, je vous invite vraiment à le lire, chute.media, et à le soutenir aussi parce que ça fonctionne par un système d'abonnement et ça a été fondé par deux femmes.
Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, celle où on se détend et on s'amuse. Aujourd'hui, Laetitia et moi, on va être tous les deux les maîtres du jeu à tour de rôle. On va s'amuser autour des sujets du digital et on va s'amuser avec vous. N'hésitez pas à vous prendre au jeu et à participer de votre côté pour trouver les réponses le plus rapidement. Laetitia, tu m'as préparé un cupuc, hein, question pour un champion.
Voilà, un petit cupuc pour toi, Adrien. Est-ce que tu es prêt ?
Je suis prêt.
Alors, créé en 1998 par Ponyma, mon siège est situé dans le district de Nanshan, à Shenzhen, en République populaire de Chine. Mes services incluent des réseaux sociaux, des portails web...
Alibaba ?
Non. De commerce en ligne et de jeux en ligne multijoueurs.
Tencent ?
Oui.
Ouais, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Génial, vas-y, termine la description.
Mon nom est dérivé de l'expression chinoise que je n'arrive pas à dire, Shifen. Le premier caractère est le nombre 10 et le second est une mesure qui peut être utilisée pour représenter un centième et un centième de yuan. Le Sud-Africain Napster, et ça je ne le savais pas, a acheté 46% de l'entreprise en 2001. En 2015, j'acquiers une participation de 15% dans Glue Mobile pour 126 millions de dollars. En 2017, la capitalisation boursière devient l'une des 10 plus importantes au monde et la plus importante d'Asie devant celle d'Alibaba. En novembre 2017, la société annonce avoir acquis 12% du capital de Snapchat. Et parmi mes services, on retrouve QQ, WeChat, TenPay. Bravo Adrien.
Merci beaucoup Laetitia. Eh ben écoute, super. J'étais sûr de perdre, donc j'ai eu beaucoup de chance parce que je connais pas beaucoup d'acteurs chinois.
Si c'était pas Alibaba, c'était Tencent. Hein.
Ouais. Du coup, c'est à mon tour et je te propose de faire un French Connection.
Allez.
Alors le French Connection, tu trouves le lien entre les différents indices que je vais te donner. Donc le premier mot c'est Velleda, qui s'écrit avec un W. Alors peut-être que je le prononce mal. Velleda ou Velleda.
Ouais, c'est une marque allemande de cosmétiques, c'est ça?
Je sais pas, c'est à toi de me dire.
Oui,
je sais
parce
pas.
En fait, t'as deux Velleda. T'as Velleda avec un V et t'as Velleda. Mais si
ah, quoi,
c'est
avec
le
W.
W, c'est la marque de cosmétiques bio allemande. Voilà, j'ai gagné, c'est bon.
Non, t'as pas donné le mot qu'il me fallait. Faut que tu fasses next, sinon tu
vas-y,
me cours sur le jeu. Patika.
Ouais, bah c'est aussi des produits de beauté, ça. Patika, oui. Produits de cosmétiques bio.
Mmh. Ouais, bon, je crois que t'as gagné. Vas-y, next. Bah, c'est Mademoiselle Bio, Morphée, Glossier. Effectivement, c'était des DNVB Beauty.
Ouais, voilà.
Bon, j'attendais mon DNVB, mais bon, c'est très bien. J'en ai un deuxième parce que je savais que t'allais gagner très vite.
Ouais, quand même, je suis forte au pot des premiers.
Bravo,
j'ai trouvé.
Ouais.
Vas-y.
OTH, en DNVB, t'es invincible.
Attends, t'as dit quelque chose, hein?
OTH.
Ah.
OTH.
OTH? Non, j'ai pas, là.
Alors, OTH pour Off the Hook.
D'accord.
Deuxième, Caval.
Cap Caval?
Non, Caval, C-A-V-A-L.
Donc là, tu me cites des acronymes. On est dans Acronymator dans French Connection.
Non.
Vas-y, continue.
J'ai remixé plusieurs jeux, c'est ça. J'étais embrouillé sur les règles de jeu. Donc le premier, c'est OTH, le deuxième, Caval, et le troisième, Veja.
Alors Veja, on est sur des. On est sur une DNVB, sur des chaussures, avec du caoutchouc d'Amazonie. Vas-y.
Non, mais écoute, je crois que tu l'as dit, c'est DNVB chaussures. Le premier, c'était Beauty, le deuxième, c'est chaussures. Je voulais prendre des marques peu connues jusqu'à la plus connue. Et donc, tu as Off the Hook, Caval, Veja, il y en a 50 milliards d'autres. T'en connais d'autres, par
ouais,
exemple, de
Fago,
tête
Fago,
ouais.
Panafrica. Non, il y en a pas mal. Il y a Éponyme aussi.
Ouais, et puis en beauty, il y en avait tellement, je savais même pas lesquels connaître parce que je suis pas client, donc je savais pas si c'était trop obvious ou pas. Bah écoute, Laetitia, félicitations, t'as encore gagné. Bravo à toi.
Merci, toi aussi t'as gagné. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous ce moment. Si vous entendez des petits gazouillis de bébé, eh ben c'était l'invité surprise, Amy. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecafedelecommerce.fr.
Merci à tous de votre écoute. Si vous voulez nous contacter, c'est laetitia@lecafedelecommerce.fr ou adrien@lecafedelecommerce.fr. Partagez cet épisode autour de vous, contactez-nous, envoyez-nous vos feedbacks. Et Laetitia, on se dit à la semaine prochaine.
Allez Adrien, rendez-vous la semaine prochaine.